Bonjour, je m'appelle Guillemette, je suis journaliste à Ombres et Lumières, média spécialisé dans le handicap. Bienvenue dans le podcast La Lumière d'une rencontre, réalisé avec le soutien de la Fondation OCH. Tous les deux mois, je vous propose de rencontrer quelqu'un de concerné par le handicap ou la maladie, ou qui y est sensible. Le thème de l'épisode est toujours en lien avec le numéro d'Ombres et Lumières en cours. Ce témoin nous partagera son histoire, parfois traversée par l'épreuve, et les chemins que la vie a pris pour la dépasser. Laetitia Forge-d'Arc, bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Donc, on est à Angoulême, dans une cuisine, au coin du feu. Voilà, il fait un peu froid, mais le feu de la cheminée nous réchauffe à côté. Merci d'accepter de témoigner aujourd'hui pour La Lumière d'une rencontre. Donc, c'est le podcast de la revue Ombre et Lumière. Alors, si je vous tends le micro aujourd'hui, c'est pour nous raconter comment vous avez soutenu, accompagné votre fils Cyprien, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est atteint de schizophrénie. Alors avant de nous décrire un peu ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez nous décrire qui il est, quelle est sa personnalité pour qu'on puisse un peu se représenter qui est Cyprien ?
Merci Guillemette, parce qu'effectivement je trouve que c'est intéressant de commencer par cette question-là, dans la mesure où... C'est un diagnostic qui a tendance à enfermer. En fait, c'est une étiquette qui est lourde à porter. Et au-delà de ce diagnostic, bien Cyprien, c'est d'abord un garçon donc, qui aujourd'hui a 23 ans, et qui en avait 18 lorsque la maladie est survenue. C'est déclaré, en tout cas. C'est un garçon, le terme qui me vient en vous entendant prononcer le titre de cette rubrique, La lumière d'une rencontre, je dirais que c'est un garçon lumineux. C'est un garçon qui a beaucoup de ressources, pas mal d'amis, pas mal de qualités. Il compose de la musique, il aime le sport, il est super créatif. Avant 2018, l'année 2018, il passe son bac. Il a passé précédemment une année de césure comme garçon au pair en Allemagne. Parce que le cadre scolaire n'est vraiment pas quelque chose qui lui convient. C'est quelque chose avec lequel il a envie d'en finir, en fait, clairement. Donc, après sa première S, il a fait une année de césure, qui s'est très bien passée. Et lorsqu'on arrive à Strasbourg en 2018, c'est un garçon qui a envie de passer son bac et de passer à autre chose. Voilà, de travailler.
Okay. Donc, vous parlez beaucoup de l'année 2018. Donc en effet, c'est l'année où la maladie fait éruption dans sa vie. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu ce moment, comment ça déclenché peut-être les premiers troubles ?
C'est difficile de poser un moment exact. Alors je peux poser le moment où il y a eu, selon les termes, cette bouffée délirante aiguë, cette décompensation, comme on voudra l'appeler. Cela dit... Dans les mois qui précèdent, donc il y a eu un déménagement. J'en parle parce que dans les éléments déclencheurs, il y a quand même souvent un facteur stress important. Il y a eu un déménagement. Il ne faut pas oublier qu'à Strasbourg, le 11 décembre 2018, il y a eu un attentat qui a fait 5 morts, 11 blessés, oui. Que les Alsaciens n'oublieront pas, même si malheureusement, avec l'actualité national, c'est pas forcément celui qu'on a retenu, mais pour les Strasbourgeois, ça a été très 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 douloureux. Et nous, on habite à l'époque à quelques mètres en fait de là où se sont passés les événements. Oui. Et si j'en parle, c'est parce que ce soir-là, Cyprien était sorti. En fait, il était en ville avec des amis, et donc il faut imaginer cette panique qui s'est emparée de la ville, le centre-ville a été bouclé, des policiers et l'armée ont été déployés en fait. Sont des éléments très très importants en fait, parce que je pense qu'ils font partie aussi des éléments déclencheurs. Dans ce moment troublé, j'ai un fiston qui a du mal à se lever le matin, qui n'a plus de goût, qui a du mal à aller en cours, qui a des influences qui ne sont pas les meilleures qu'il soit, qui retouche au cannabis. Et qui a des troubles de sommeil importants. Donc on habite en plein centre-ville, il lui arrive fréquemment de sortir au milieu de la nuit et puis de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais d'aller errer. Donc on est déjà dans cette situation très... j'ai envie de dire très pas normal en fait, très, ouais, très anormal. Et je crois que c'était le 18 décembre, j'avoue que je ne me souviens plus exactement des faits. Toujours est-il qu'un soir on rentre et on voit Cyprien couché par terre avec sa sœur à côté de lui, en panique. Et Cyprien a des propos très incohérents, une sorte de délire mystique, des propos qu'on n'arrive pas à comprendre en fait. Donc ça, oui, ça, ce moment-là, on peut dire que c'est vraiment le moment du déclenchement. Et là, on est, comment dire, complètement pris au dépourvu, en fait. Tout d'un coup, le sol se dérobe. En fait, on ne sait pas ce qu'on doit faire, qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est en lien avec, peut-être, des produits qu'il aurait pris? Est-ce que c'est autre chose? En fait, on n'en sait rien. L'un de mes premiers réflexes a été de contacter l'un de mes frères qui est pédopsychiatre au Canada et qui nous a alerté en fait sur le fait que ce qui se passait là n'était pas anodin et qu'il fallait qu'on appelle les urgences psychiatriques. Donc on était juste avant la période de Noël et donc on a conduit Cyprien aux urgences et il a été hospitalisé juste après Noël pour le coup.
D'accord, donc il s'est passé quelques jours entre oui. Voilà, le moment où vous le trouvez avec des propos incohérents et les urgences. Voilà. Et avant, enfin, pour monter un tout petit peu avant, quand vous observiez justement ces comportements un peu qui ne ressemblaient pas, etc., est-ce que vous contactiez des personnes, enfin, est-ce que vous commenciez un peu à rechercher un peu de l'aide à droite à gauche, ou pour l'instant, voilà, vous receviez ça sans forcément savoir quoi faire? Enfin, c'était...
Oui, c'est étonnant parce qu'en fait, quand j'y repense aujourd'hui, j'aurais aimé avoir quelques billes, en fait. J'aurais aimé avoir quelques armes, en fait. On est tellement déroutés. C'est aussi une situation qui est assez vite. On peut avoir des propos, entre guillemets, moralisants. Parce que l'entourage vous y pousse, et puis parce que soi-même, on est un petit peu formaté comme ça. C'est-à-dire que on va se dire, il fait n'importe quoi. Ou il pourrait se secouer pour aller en cours le matin. Mais enfin, il n'a pas d'ambition, il n'a pas de volonté. Ou il nous emmerde, tout simplement. parce qu'en fait, Cyprien, il est né de 4, donc il a 3 sœurs. Il a 3 sœurs ensuite. Et on veut aussi que la vie puisse continuer. Donc on va poser des interdits. Voilà, tu ne sors pas, tu ne reviens pas après telle heure, tu ne fais pas de bruit la nuit, tu ne fumes pas dans la maison. Enfin voilà, des choses qui sont complètement dérisoires. Mais on est encore dans ce cadre qu'on veut normal. Et on cherche en fait toutes sortes d'explications normées. Et on ne comprend pas qu'en fait, c'est pas ce cadre-là qui va s'appliquer désormais. Quoi.
Oui, on passe à une autre... Enfin, pas une autre sphère, mais...
Voilà, à une autre dimension, on peut dire.
Ouais, oui, complètement. Et justement, donc, ce premier séjour aux urgences psychiatriques, là encore, on sait que pour beaucoup de proches, c'est peut-être, et la personne elle-même, un moment assez violent. Voilà, en quelques mots aussi, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter... Ce moment-là.
Ce premier séjour en hôpital psychiatrique, donc il se trouve que c'est au nouvel hôpital de Strasbourg, donc dans le centre-ville, pas très loin de chez nous. On y va à pied, on s'y rend tous les jours. On y est allé une fois avec toutes nos filles, et pas deux fois, j'avoue, parce que il y a quelque chose d'extrêmement violent. Lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on n'est pas préparé, extrêmement violent de se dire mon fils de 18 ans est là, dans cet univers qui est, même si c'est un lieu de soins, qui est un univers hostile. C'était pas une critique, hein, c'est vraiment un constat qui est hostile, où les codes ne servent plus à rien. Où on sent qu'il souffre en fait, qu'il est malheureux, qu'il a été placé là sous contrainte, qu'il n'a pas envie d'être là, et qu'en même temps il n'y a pas d'autre solution. Et puis on commence à tisser des questions qui n'ont pas de réponse, en se demandant est-ce que c'est juste pour une fois, et dans ce cas-là quelle en est la cause. En fait, qu'est-ce qui se passe, quoi, tout simplement, qu'est-ce qui se passe?
Parce que le mot même de maladie psychique, est-ce qu'à ce moment-là...
Pas du tout.
Voilà, n'est pas forcément...
Pas du tout. D'abord parce qu'on ne connaît pas, en fait. Hein. Moi, j'ai grandi dans une fratrie où l'un de mes frères est atteint de trisomie 21. Donc, j'ai grandi avec le handicap à la maison. J'ai jamais... Enfin, ça n'a rien à voir. Là, il y a quelque chose de très frappant. C'est qu'en fait, physiquement, notre garçon, il est là. Il n'a pas changé. De temps à autre, on le retrouve, en fait. C'est bien lui. Mais il y a cette bourrasque, enfin, cette espèce d'ouragan qui nous met tous cul par-dessus tête, hein, pardon pour l'expression. Moi, j'ai l'impression à ce moment-là, vous savez, les boules à neige, là, les trucs de touristes, j'ai l'impression d'être dans une boule à neige qu'on a tout secoué et que, ma foi, il faut tenir les murs, en fait. Il faut tenir les murs pour ses sœurs, pour nous. Et puis, lui, on sent qu'il souffre, en fait. On sent qu'il souffre et pourtant il y a des mots, il y a des paroles, il y a même des gestes, il y a de la violence. C'est assez difficile à décrire, c'est vraiment pas drôle à vivre, quoi.
Et le fait qu'il ait donc tout juste 18 ans, voilà, qu'il est majeur, est-ce que donc j'imagine que ça a dû
compliquer les
choses. Voilà, j'allais pas dire facilité.
Ouais, non, compliquer les choses. En fait, la première rencontre qu'on a pu avoir avec le psychiatre qui le suit à l'époque, c'est on s'entend dire, écoutez, madame et monsieur, il faut qu'on préserve l'alliance thérapeutique. Votre fils est majeur, donc c'est avec lui qu'on va parler. Et c'est vrai que voilà, maintenant, on se sent plus armé, on est en lien avec des associations, etc. Mais sur le coup, on se sent exclu, en fait, de ce qui se passe et on n'a pas les clés. Je sais que ça n'est pas le cas partout. Je sais qu'il y a une grande attention qui est portée, qu'il y a beaucoup d'évolution là-dessus sur le contact, le dialogue avec les familles. Pour nous, ça a été très très violent, en fait. Donc encore une fois, heureusement que familialement on pouvait se tourner vers mon frère qui nous a aussi indiqué des sites, avec qui on a beaucoup parlé. Mais sans ça, c'est très éprouvant, en fait. Parce qu'on se sent sur le bord de la route, quoi. Et puis, il faut bien comprendre qu'en fait, l'hôpital, c'est une chose, mais quand votre fils en ressort au bout de 15 jours, en fait, c'est à vous d'assurer, quoi. Et donc, assurer quoi? On ne sait pas ce qu'on doit faire. Il y a un début de traitement qui est plus ou moins mis en place. Mais sur le quotidien, sur tout ce qu'on va comprendre après, sur l'importance du lien, l'importance de la communication, il faut apprendre un nouveau langage, en fait. Mais tout ça, on ne connaît pas. Et donc, on se dépatouille, on bouche les trous, on essuie les plâtres, en tout cas.
Oui, donc les mois qui suivent sa première hospitalisation, j'imagine que des mois de tâtonnement, des mois de recherche, enfin, comment un peu voilà, chacun se dépatouille pour trouver des conseils, enfin, des...
Oui, et puis ça n'a pas de nom encore.
Oui.
En fait, il n'y a pas de nom. À la situation dans laquelle on se trouve, il n'y a pas de nom. Et donc, on continue à être dans ce que moi, j'appellerais des schémas. Par exemple, pour l'orientation. Je me souviens très bien de cette année où, ben, petit à petit, je voyais bien que cette année de terminale était en train de se déliter. Donc, d'abord, on bataille avec le corps enseignant, on rencontre des enseignants d'ailleurs formidables qui disent « Écoutez, on peut aménager les choses, peut-être qu'on peut lui envoyer des cours. Ou... » Voilà, donc on est sur ce volet-là, en se disant « Bon, on va l'avoir, ce bac. » Et puis voilà, je me souviendrai toujours du matin du bac de philo où j'allais partir au travail, j'étais assise sur son lit. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas se lever. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois le charger dans une brouette, l'emmener au centre d'examen? Voilà, donc c'est très long quand même, hein, tout ce temps où en fait... alors, on était peut-être moins informés que d'autres, je ne sais pas. Mais c'est très long tout ce temps où en fait, on pense que c'est un passage, ça va passer. Et donc, on cale des schémas. L'année d'après, donc évidemment, il n'a pas passé son bac. L'année d'après, on était encore dans des recherches de... bon, alors, quelle formation? Alors, il a été accepté au Compagnon du Devoir, en charpente, ce qui était chouette, ce qui était... voilà. Bon, mais il a tenu 2 mois avant de disparaître un peu dans la nature. Là encore, ça a pris des mois et des mois avant qu'on se dise... qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Ça a pris 2 ans avant qu'il reprenne et qu'il accepte lui-même de reprendre le chemin des soins. Donc pendant ces 2 premières années, il n'avait pas de traitement et nous, on était comme des sans-chaud-pensards avec des moulins à vent à essayer de pallier à cette anormalité, à ce nouveau schéma qui se présentait à nous et dont on n'avait pas idée en fait, on n'en voyait pas les contours. Et encore une fois, quand il y a toute une famille et toute une fratrie, en fait, on est aussi dans une espèce de protection, d'assurance, d'accompagnement des autres enfants, parce que c'est tellement violent à l'intérieur de la maison que voilà, c'est un peu une tornade dont on ne connaît pas le nom.
Oui, à ce moment-là, vous ne connaissez toujours pas le nom. Et en effet, la question de la fratrie est intéressante. Que dire en effet à ces autres enfants quand évidemment eux-mêmes constatent que quelque chose n'est pas normal, ne va pas bien. Voilà, comment on peut faire la part des choses, quoi dire, que dire.
À ce moment-là, encore une fois, on tient les murs. On tient les murs et puis on ne peut pas dire ce qu'on ne sait pas dire en fait. Donc je ferai vraiment la part des choses entre l'avant-diagnostic et l'après-diagnostic. Avant, on n'excuse pas en fait ce qui se passe. On est dans la compensation permanente en constatant qu'on passe beaucoup de temps pour celui qui va mal. Et du coup, on a envie d'être aussi très très présent pour les autres. On lutte contre cette espèce de climat très très pesant, très triste qui s'installe. On cherche des solutions, ouais, c'est ça, pour arranger. En fait, c'est vraiment le bateau qui prend l'eau, quoi. Ça dure 2 ans. Pour nous, ça a duré 2 ans à peu près.
Et à ce moment-là, vous travaillez. Comment concilier aussi, parce que quand ça tombe comme ça dans une famille.
Oui, à ce moment-là, on travaille tous les deux à temps plein et. Et c'est, oui, en un mot, on ne va pas s'étendre dessus, mais en un mot, c'est épuisant, en fait, d'être présent. En fait, d'être présent quelque part, tout en ayant toujours l'esprit ailleurs. Il y a eu cette période où Cyprien a un peu disparu de la circulation hein, pendant plusieurs semaines. En fait, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est en France, quoi. Il a rejoint Angers après un travail qui n'a pas abouti. Et puis, on a un peu perdu sa trace. Et on n'a pas du tout de nouvelles. Et là, être quelque part... moi, je travaille en radio. Donc, être en direct pendant une émission, en ayant un œil sur son portable, parce qu'on espère toujours avoir un coup de fil de quelque part... c'est proprement invivable, en fait. Alors, on ne gère pas la chose tous de la même façon. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça a été aussi un soulagement qu'il ne soit plus dans la maison. Je ne sais pas. Une espèce d'inquiétude planante qui fait que ouais, c'est compliqué.
Oui, c'est une lourdeur, ouais. Une charge mentale, j'imagine, très lourde. Et venons-en, en effet, au moment où le diagnostic tombe, j'imagine à la fois... la lourdeur d'un diagnostic, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, en même temps une certaine « Ah, enfin, je sais ce qu'il a ». Voilà. Comment vous avez vécu un peu ce... au bout de combien de temps déjà le diagnostic a-t-il été posé et quel effet cela a causé chez vous?
Le diagnostic est tombé au bout de 2 ans et demi. Et en fait, parce que Cyprien a eu le courage... Après une autre tentative de redémarrage, en fait, au bout de 2 ans, il avait fait le choix de rejoindre ce qu'on appelle un micro-lycée. C'est un lycée qui est prévu pour les élèves décrocheurs. Il voulait absolument repasser son bac, ce qui était très courageux de sa part. Et en même temps, il avait décidé de reprendre contact avec l'hôpital pour avoir un suivi, ce qu'il n'avait pas du tout. Et je pointe le fait qu'effectivement, c'était très courageux de sa part. C'était la chose à faire, en fait. Parce que c'est ce suivi, le fait qu'il soit à nouveau vu régulièrement par une équipe médicale, qui fait qu'au bout de quelques mois, le diagnostic est tombé. Le jour du diagnostic, ça c'est un jour que je ne risque pas d'oublier, en fait, on était tous les trois, mon mari et moi et Cyprien, dans le bureau du psychiatre, qui est accompagné d'une psychologue, et il nous a expliqué tout un tas de choses, très posément, etc. Et puis au bout d'une phrase... mais comme si... Enfin, je ne l'attendais pas, en fait. Au bout d'une phrase, il y a eu ce mot, schizophrénie. Et je me souviens, je fixais des yeux une plante verte qui était derrière lui sur une étagère. Et je me disais, ne pas pleurer, ne pas pleurer, ne pas pleurer, ça n'est pas le moment. Mais c'était lunaire. Enfin, pour moi, ça a été... pour moi, ça n'a pas du tout été un soulagement, en fait. Je pense que je voulais pas l'entendre, je voulais pas le voir. Donc non, sur le coup, pour moi, c'était terrible. Mais l'équipe médicale a été remarquable. Enfin, voilà, ils ont pris soin d'entendre nos réactions, celles de Cyprien. Comment est-ce qu'il recevait ça? Je me souviens des premiers mots de Cyprien quand le médecin lui a dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Il a dit « Ah, ça fait chier. » On est assez d'accord. Et puis voilà, puis après on est sorti de l'hôpital et moi j'en menais pas large, j'arrivais pas à ouvrir le bec. Et il me prend les épaules, il entoure son bras autour de mes épaules et il me regarde et me dit « Hé maman, c'est toujours moi, c'est Cyprien, je suis là. » Et je me suis dit « C'est dingue quoi, c'est lui qui a le courage de me rappeler l'essentiel. On a un mot qui va nous permettre de comprendre des choses, d'apprendre, de l'accompagner, de... enfin d'agir, quoi, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On avait l'impression toujours de courir après des solutions qui n'en étaient pas. Donc voilà, oui, clairement, le fait d'avoir ce diagnostic, ça a permis de... comme d'avoir un nouveau... Je sais pas, je veux pas parler de mode d'emploi, c'est trop triste, mais quand même de comprendre en fait sur quel levier on allait pouvoir avancer.
Oui, au moins une petite boussole, pas forcément... Ouais. Qui mène là où on voulait qu'elle nous mène, mais...
Ouais. C'est ça. Oui, je vais dire un truc horrible, mais d'avoir un os à ronger. C'est-à-dire qu'il y a aussi... pour moi, ce qui a été très important aussi, c'est de travailler sur ce sujet. Journaliste, mon médecin... Enfin, voilà, comprendre un sujet. Et donc, de rejoindre un groupe de formation sur les maladies psychotiques, de rencontrer des gens, d'apprendre, en fait, de comprendre tout ce qui allait faire quand même notre quotidien, le sien d'abord, pour pouvoir l'aider au mieux.
Et donc, vous rejoignez un groupe, une association, c'est ça,
oui.
Un peu après?
Oui, assez vite. On avait déjà rejoint avec mon mari un groupe de parole qui est proposé par des médecins de l'hôpital de Strasbourg. Un groupe de parole, donc c'est tout simple. Il n'y a pas une volonté, là, pour le coup, d'apporter des solutions. Mais c'est vraiment très intéressant. J'invite vraiment les familles à se tourner vers ces propositions-là parce que l'idée, c'est que... Il y a dans ces groupes des parents, des proches, qui sont tous concernés au premier chef et qui sont à des étapes différentes, en fait. Donc, pour certains, on va se dire « Ah oui, il vit vraiment la même chose que moi. » Et puis, pour d'autres, on va se dire « Ah, ouf, donc ça, c'est possible. Il y a quelque chose de possible. » Il y a une espèce de... Je ne sais pas si c'est une solidarité, de compréhension. On parle la même langue, en fait. Et c'est précieux parce que ce qui va être très chamboulant dans cette maladie, c'est l'impression souvent qu'on ne parle pas la même langue que les autres, que tous les gens qu'on a fréquentés avant. Je me souviens de cet ami qui m'avait dit un jour où Cyprien devait rentrer de Reims en train, et ça faisait déjà deux fois qu'il ratait son train. Il était à la gare, mais il n'avait pas pu monter dans le train, deux fois de suite. Et donc je dis, oh, mais comment je fais là, il est loin, je ne peux pas aller chercher, machin. Et elle me dit « Oh, mais tu lui fous un coup de pied au cul, enfin !» Et je me suis dit « Mais non !» Voilà. Et ça, c'est arrivé souvent, en fait. Se dire « Ben non, en fait, ce langage-là ne marche pas, c'est pas possible. » Alors, je parle pas, pour le coup, du langage des médias qui utilisent tellement tous ces mots, tel a un comportement schizophrène, etc. Je pense que, voilà, d'autres familles concernées en souffrent aussi. Ce sont des termes qui sont employés... à très mauvais escient. Donc voilà, je parlais des groupes de parole, et ce qui est précieux, c'est que là, on va utiliser les mêmes mots et se sentir connecté à d'autres. Ça, c'est vraiment précieux. Donc il y aura ça, et puis il y aura effectivement ce groupe de formation là, pendant deux ans. Et puis une association qui s'appelle l'UNAFAM, extrêmement précieuse aussi pour l'accompagnement des familles. Pour trouver des ressources, trouver des aides, trouver encore une fois des leviers, quoi.
Et à propos de ressources, donc en effet ces groupes de parole, ces temps d'échange sont très importants. Et vous personnellement, comment vous vous accordez aussi des bulles d'air, enfin des sas un peu de respiration. Je sais pas, parfois ça peut être la lecture, le sport. Enfin, est-ce que vous arrivez, en tant que maman, à vous libérer un peu de temps pour ce moment-là.
Ça, c'est sans doute ce qui pour moi a été le plus difficile. Ce qui a été le plus difficile, c'est de ne pas sombrer dans cette espèce de glu. Oui, c'est ça, l'impression d'être englué tout le temps parce qu'on cherche une solution, parce qu'on cherche des aides, parce qu'on veut agir, en fait. Bon, c'est sûrement aussi dans mon tempérament. Et donc, se ménager du temps, pour moi, ce qui a été salvateur, vraiment, c'est l'amitié de certains proches, en fait. De certains proches dont on sent que sans vivre la même chose, ils en comprennent la douleur et qui sont là en fait. Donc ça a été faire une sortie, une balade, un bricolage. J'ai laissé quelques plumes aussi. J'ai été opérée deux fois du dos depuis cette affaire-là. C'est pas non plus anodin. Mais voilà, en termes de ressources. Je crois que c'est vraiment dans l'amitié et dans ce soutien-là que moi j'ai été le plus aidée. Je pense qu'on a des façons différentes de réagir. Nos enfants aussi ont eu à chercher des ressources. Donc Dieu merci, ils ont aussi un bon réseau amical. Et puis en couple, se tenir les coudes, ça. Chacun, je ne peux pas évidemment parler à leur place, on a eu chacun notre façon de réagir. Je pense qu'on a tous des façons différentes de souffrir aussi. Alors un mot justement sur l'aspect familial, on a eu la chance de nous voir proposer des groupes de thérapie familiale auxquels on s'est rendu pendant un peu plus d'un an, tous les six. Alors à ce moment-là, l'une était étudiante en Belgique, Cyprien était à Reims. Mon mari parfois était en visio depuis son travail, mais on se retrouvait tous les six. Et je dois dire que ça a été extrêmement précieux. Pour être honnête, on y allait à peu près la plupart du temps en traînant les pieds, mais c'était des très très beaux moments de vérité, de joie aussi, et de partage de ce qui nous tenait, de ce pourquoi on avait envie de tenir et de l'amour qui nous unissait. Ça a été des moments très intenses, hein. C'est quelque chose que je conseille aussi fortement.
Oui. Et de parvenir à rester, que l'unité de la famille subsiste dans ces moments d'éclatement, c'est que ça doit être quelque chose de très périlleux, quoi.
Périlleux, oui, tout à fait. Je peux pas parler d'autre chose, de ce que je ne connais pas, mais je crains que cette maladie-là, elle a quelque chose qui fait souffrir le lien, qui distend le lien, qui l'abîme en fait, comme une sorte d'élastique. C'est très malmené, des moments où on a une proximité intense, d'autres moments où il y a un grand éloignement, d'autres moments où on a l'impression qu'il n'y a plus rien du tout. Alors ça vaut pour le proche souffrant avec ses parents et ses frères et sœurs, mais ça vaut aussi pour l'ensemble en fait de la famille. Et je crois que s'il y a une chose essentielle pour laquelle il faut batailler, c'est conserver ce lien, quoi qu'il en coûte en fait. Conserver ce lien et trouver, avoir de la créativité, de l'imagination pour que ce lien reste beau en fait, que ce lien reste aimant. C'est la seule façon de tenir, je pense.
Et Laetitia, vous êtes chrétienne également. Comment votre rapport à votre foi dans ces moments-là, de ces moments de trouble, d'agitation, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous êtes rapproché, éloigné de Dieu à ce moment-là?
On parlait tout à l'heure de l'annonce du diagnostic. Lorsqu'on est sorti de l'hôpital, à Strasbourg, il y a le long de l'hôpital public une fresque assez magnifique, que je n'avais jamais remarquée avant, en hauteur, en superbe, avec le Christ en croix. Et au pied de la croix, il y a Saint Jean et Marie avec un glaive qui lui transperce le cœur. Et je me souviens, en sortant, lorsque Cyprien me tenait par les épaules, comme je disais tout à l'heure, d'avoir regardé cette image et de m'être dit « Ah oui, c'est ça ». Alors, je ne suis pas Marie, je n'ai pas Jésus, Mais peut-être que clairement, je ne regarde plus les Pietà de la même façon aujourd'hui. Je ne peux pas dire que j'ai ni renié, ni été en colère. Ni... Je crois que la première chose que m'a donnée la foi que j'ai, c'est de savoir que je n'étais pas seule, en fait. Que Marie et que d'autres dans cette histoire humaine, cette histoire de l'Évangile, cette histoire humaine, que d'autres avaient souffert bien au-delà de ce qu'on était en train de traverser. C'était aussi de me dire, de sentir, de savoir que le Dieu auquel je crois est le Dieu de la vie, en fait. Et que lorsque je pleure, il pleure avec moi. C'est un Dieu qui est là, en fait. C'est un Dieu qui dit depuis la création, tu peux. Tu peux, je suis là. Et ce tu peux, je suis là, je crois que je l'ai entendu très fortement. Bien souvent, même quand tout était en vrac. Après, je dirais que voilà, la foi, pour moi, elle s'est surtout illustrée, comme je le disais aussi tout à l'heure, dans la proximité des liens avec des amis, où vraiment, je me suis dit, le Seigneur ne nous lâche pas, quoi. Il est avec nous dans la galère, il ne nous lâche pas, il est là présent en un tel. Il est là présent en Cyprien aussi, ça c'est sûr. Il ne le lâche pas, il ne le lâchera pas. Il est là présent aussi dans des nouvelles façons de prier qu'on a pu inaugurer avec mon mari. On n'était pas très coutumiers de chapelet, neuvaine. Et puis parfois, quand il n'y a plus rien, qu'on ne sait plus quoi dire, qu'on est complètement... déboussolé, s'entendre ensemble un soir prier comme ça par des mots qui ont été prononcés par des centaines de milliers avant nous, qui sont un peu dans cette chaîne de croyants, de priants, de souffrants, d'espérants. En fait, ça nous a tenus aussi. Donc, comment ma foi, je sais pas comment elle a évolué. Elle s'est ancrée dans l'espérance. Elle s'est ancrée dans l'espérance. C'est pas possible qu'on reste les pieds dans la glaise comme ça. Enfin, je sais, je crois vraiment que le Christ est avec nous, que c'est un Dieu qui porte les souffrants et qui lâche pas Cyprien, ça c'est sûr.
Et justement, Cyprien, est-ce que vous pouvez nous dire où il en est un peu aujourd'hui, comment même si voilà, ça va être difficile de voir à long terme, mais voilà, comment il est
À long terme, c'est difficile. Hein. Je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai appris à regarder le bout de mes chaussures. Hein, parce que les choses évoluent un peu d'un jour à l'autre. Cyprien, il a pris courageusement le défi, en fait, à bras-le-corps d'avancer. Et ça, c'est énorme. Pour qui connaît cette maladie, c'est énorme déjà, c'est un courage inouï de décider d'avancer en fait. Il sort tout juste de 8 semaines d'hospitalisation, voilà, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de bas, il a lâché les traitements et l'accompagnement médical là, pendant plusieurs mois, et du coup, fatalement, ça peut pas marcher. Donc ça a abouti à une hospitalisation qu'il a vécu assez douloureusement, mais assez courageusement aussi, à l'issue de laquelle il y a à nouveau un traitement qui est proposé. Mais au-delà du traitement, un accompagnement humain qui me semble vraiment, vraiment bien vu, qui me donne beaucoup d'espérance aussi parce qu'on se sent encore un peu moins seul, en fait. C'est comme une étape, en fait. Je ne m'attends pas à ce que cette vie-là soit une traversée, c'est-à-dire qu'on ne va pas traverser quelque chose, il n'y a pas d'autre rive en fait, notre vie c'est ça maintenant. En revanche, la mer va pouvoir être plus ou moins agitée, et je pense que là, on n'est plus tout seul dans la barque en fait. Donc voilà, pour lui c'est pas lisse, mais il a courageusement empoigné le désir de poursuivre, d'avancer, de se soigner. Et ça, c'est ça me semble énorme. Mmh. Ça me semble énorme.
Et justement, dans cette barque voilà, mouvementée, agitée, dans laquelle se cramponnent beaucoup de nos lecteurs, beaucoup de nos auditeurs, qu'est-ce que vous auriez, enfin, qu'est-ce que, comme phrase un peu d'élan, enfin, je sais pas comment dire, mais vous, au moment où tout ça est arrivé, qu'est-ce que vous auriez peut-être aimé entendre, recevoir et que vous aimeriez transmettre aujourd'hui?
Bah, peut-être que déjà, si j'ai accepté de répondre à vos questions, c'est parce que j'espère que grâce à l'OCH et puis grâce à beaucoup d'autres, ces maladies, ces handicaps, ces troubles psychiques seront plus connus. Il y a un tel tabou, une telle méconnaissance du sujet, même si ça commence à évoluer, qu'on est très démunis, comme je le disais tout à l'heure. Du coup, voilà, ma première espérance, c'est que ce soit plus connu et que lorsque ça survient, eh bien, on soit peut-être un peu plus armé, non pas pour se préparer au pire, mais pour savoir que c'est possible. Et puis surtout pour avoir les bons réflexes. Voilà, encore une fois, ne pas calquer des jugements moraux dont on est pétri sur des attitudes et des moments, des souffrances de notre proche qui n'ont rien à voir avec la morale, en fait. Donc ça me semble vraiment essentiel. Ensuite, j'aurais envie de dire de se former, d'apprendre, de comprendre. Il y a des associations, il y en a énormément. Le petit regret que j'ai, c'est que lorsqu'on vous annonce ce diagnostic ou lorsqu'on est en lien avec les équipes médicales, en fait, on ne vous en parle pas. On vous laisse sortir avec ce diagnostic, bam, débrouillez-vous, quoi, au revoir madame. Donc voilà, il faut chercher, il faut se tourner, il faut lire le journal de l'OCH, il faut contacter une AFAM ou d'autres. Il existe des ressources et ça, je pense que vraiment, il faut très vite se tourner vers ça. Et puis, je parlais du lien. Il faut soi-même ne pas s'isoler, parce que c'est un périple qui isole terriblement, en fait. On est dépassé et il faut rester en contact, il faut rester en lien soi-même. Et il faut maintenir le lien avec ses proches et avec le proche souffrant. Autant que possible, même si c'est pas le lien dont on rêve, même si il est douloureux, maintenir ce lien pour que la suite puisse advenir, en fait. Maintenir ce lien quoi qu'il advienne, et puis ne pas ménager, j'allais dire ses efforts, mais ne pas ménager son amour, en fait, parce que je crois bien que c'est, il y a vraiment que l'amour qui peut soulever cette montagne là, en fait.
On va en rester sur cette très belle image. Un grand merci, Laetitia, de nous avoir raconté un peu ce bout d'histoire tourmentée. Et merci d'avoir un peu levé le voile sur cette maladie psychique qui reste encore tellement méconnue et auxquelles sont accolées tellement de préjugés. Donc merci.
Merci, Guillaume.
Pour votre confiance. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Lumière d'une Rencontre, le podcast réalisé par la revue Ombres et Lumières et la Fondation OCH. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez approfondir ce thème en vous procurant le numéro de la revue en allant sur ombreseslumieres.fr. À bientôt !